Día de los Muertos a commencer.
Ce soir, on reste en famille.
Tes ancêtres seront toujours là pour te guider.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. Entrez donc, installez-vous. Nous avons ici, je crois, les bougies, les fleurs. Notre hôtel est prêt et il y a de la musique. On est bien, ça sent délicieusement bon aujourd'hui dans ce studio. 31 octobre, première journée de la fête des morts au Mexique. Día de Muertos, pendant 3 jours, les deux mondes se confondent et se répondent. Celui des morts, celui des vivants. Une passerelle de lumière et de couleurs pour célébrer la vie. Pour ce voyage, nous sommes bien accompagnés aujourd'hui. Nous avons avec nous... Notre guide, cuisinière, chef, mexicaine, passeuse de culture, une amie du goût du monde. Bonjour Mercedes.
Bonjour Clémence, merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être avec nous, Mercedes Ahumada. Et puis vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui, vous êtes venue bien accompagnée.
Je suis venue bien accompagnée, effectivement.
Avec la transmission sur pâte, il s'appelle comment? Bonjour.
Sébastien,
bonjour Sébastien, donc le fils de Mercedes Ahumada qui nous fait le bonheur et la joie d'être avec nous aujourd'hui, parce que si c'est par lui que s'opère cette transmission, c'est la culture mexicaine, le premier, puisque ton papa est français, ta maman mexicaine, donc tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ce que tu sais et comment tu vis cette fête des morts. Alors justement, c'est peut-être vers toi que je vais me tourner pour la toute première question de cette émission. Il y a d'ordinaire un hôtel qui est fait, un altar, je crois qu'on dit en espagnol.
En espagnol, on dit altar.
Dans les maisons sur lesquelles il y a des offrandes. Est-ce que c'est important pour toi de fêter, et comment se fête chez toi cette fête des morts?
Pour moi, c'est très important parce que s'il n'y a pas leurs photos, ils ne peuvent pas venir nous voir. Et...
Il y a plein de choses à manger.
Il y a plein de choses à manger. Donc tu dis, s'il n'y a pas leurs photos, c'est la photo des gens qui sont disparus de votre
famille. Oui.
Et donc on les dispose sur l'autel, c'est ça? Comment ça se passe?
On met une photo ou un cadre sur l'ofrenda, comme j'appelle ça. On le met et comme ça, grâce à ça, ils peuvent venir.
D'accord. Donc ce qui est dingue quand même, enfin ce qui est intéressant évidemment, c'est que lui il dit ils peuvent venir, donc c'est tout à fait une évidence que cette passerelle se crée pendant le temps, les 3 jours qui encadrent donc la journée des morts, le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre, la fête des morts.
Exactement. Pour nous, la fête des morts, c'est ça, c'est un pont. Et effectivement, il y a un pont entre le monde des vivants et des morts. Et c'est toute une tradition au Mexique où on peut voir toutes les couleurs et de lumière, bien sûr des plats où la gastronomie est présente. Mais surtout aussi toute cette synergie des 2-3 cultures qui sont maintenant vivantes au Mexique. Donc on a plusieurs racines dont le Mexica fait partie et toutes ces traditions restent jusqu'à nos jours.
Et c'est très ancienne ces traditions, je crois, Mercedes.
C'est très ancienne parce que ça vient de l'époque préhispanique et ça ne se fêtait pas comme ça. Et bien sûr, c'était juste en fait la mort d'un cycle de vie. C'était la mort d'un cycle agricole en fait. Et on fêtait ça, nos ancêtres fêtaient ça justement avec des offrandes, avec des plats et beaucoup de choses. Et que là, jusqu'à maintenant sont documentées et dont on a ensuite toujours. Mais à l'arrivée des Espagnols, bien sûr, il y a eu une synergie. Et cette période était aussi la même période de la Toussaint. Je peux pas dire que c'est une tradition religieuse puisque il y a beaucoup d'éléments qui sont dehors la religion, comme fêter justement le mort et avoir des symboles qui sont pas présentes dans une religion chrétienne, et comme c'est l'été des morts, tout c'est pas en fait à l'époque il y a des documents où ils expliquent qu'ils faisaient des sacrifices, des choses comme ça justement pour remercier au dieu de l'agriculture. Et le dieu de l'agriculture par exemple s'est transformé en un saint qui c'est San Isidro Labrador, là où en Espagne il fait une grande fête justement pour fêter l'agriculture. Et voilà la synergie, et ça c'est faite jusqu'à nos jours, mais d'une façon un peu différente.
D'accord, et il y a eu un syncrétisme en fait. Quand voilà. les Espagnols sont arrivés, étant catholiques, il fallait absolument confondre les traditions préhispaniques.
Préhispaniques, exactement.
Et confondre dans cette vie le quotidien du Nouveau-Mexique en réalité.
Exactement, et c'est là que le Mexique est né. Et j'ai toujours dit que la fête des morts, je pense que c'est pour les Mexicains la fête la plus importante. Même beaucoup plus importante que Noël, non ? La fête pendant 3 jours, et pendant 3 jours, on fait la fête
et
avec nos morts.
Mercedes Agumada, on l'a faite pendant 3 jours. On va parler bien sûr tout au long de cette émission de ce qu'on peut trouver de comestible, donc à manger, et ce qui est très important d'ailleurs sur cet hôtel. Oui. Combien de temps on met, quand est-ce que le go pour préparer toute cette nourriture qui va justement orchestrer ces 3 jours, quand est-ce que ça commence, comment ça se passe?
Tu vois, il y a une chose très très étonnante. Dans certaines régions, et la préparation commence une année avant, bien entendu, puisque le cycle commence. Donc, il y a des endroits où c'est tellement important que les lignes, tu sais, quand pour la culture des maïs, ils mettent des lignes à part qui vont dire non, ça c'est pour la fête des morts, et cette variété c'est pour le mariage, ou cette variété c'est pour la communion ou la fête ou des choses comme ça. Parce que tu sais, on dit qu'au Mexique c'est toujours la fête. Effectivement, même depuis que ça commence le cycle du maïs, parce que le maïs est le plus important. Donc, et là, si tu me demandes combien de temps ça prend, bah, il y aura des régions où ça prend une année, parce qu'on commence avec justement l'agriculture. Mais sinon, si on parle des plats, ça dépendra aussi de la région, mais bon, une semaine, une bonne semaine, voire plus, ça dépend le piment, si on va utiliser des piments qu'il faut sécher, qu'il faut bien choisir pour le plat qu'on va préparer, les épices. Et chaque étape a vraiment une importance et dans la famille. C'est des fêtes que normalement on vit en famille, et c'est la famille qui va préparer tout le plat. C'est pas seulement une personne, et je peux dire une expérience que et c'est la mère ou la grand-mère qui va chercher tous les ingrédients, et les enfants, et on a les trois de tout préparer, c'est-à-dire éplucher, on est les commis quoi, d'éplucher, de choisir, de laver, de faire le travail le plus
ingrat en fait. Voilà. C'est toute la préparation qui ensuite...
Toute la préparation. Mais quand on arrive au fourneau, c'est la grand-mère ou c'est la mère qui va faire, et elle va pas permettre que les autres viennent toucher ce qu'elle a fait. C'est une œuvre, quoi. C'est une œuvre d'art. Mmh. Et donc voilà, et c'est une fête que se vit en famille, dont tout le monde partage. Et le plat qu'on préparait, bon, il y en a plein. Ça dépendra de la région.
Oui, c'est ça, de région en région. Vous venez de quelle région?
Je viens de la région centre. Ça, c'est une ville, bon, je suis née dans une ville qui s'appelle Toluca, et c'était un village agricole justement. Et là où à ma grand-mère, ça prenait une année de préparer les fêtes. Non, parce que elle choisissait, en fait, les travaux des femmes au Mexique, c'est de choisir les graines pour pouvoir avoir
le maïs toute l'année là.
Voilà, c'est un héritage, quoi. C'est un héritage, et l'année suivante, on va s'aimer les graines qu'elles sont choisies, jusqu'à arriver à avoir vraiment des variétés très très spécifiques dont elles voulaient pour préparer les plats qu'elles savaient
qu'elles avaient choisis pour la fête des morts.
Exactement.
Alors racontez-nous, voilà, justement, dans vos souvenirs d'enfance, qu'est-ce qui vous donnait le sentiment que ça y est, les préparatifs étaient lancés, on approchait de la fête des morts, Mercedes?
Le plus important, c'est quand j'arrivais là chez ma grand-mère, que c'était une grande maison. Donc tous les salons étaient préparés pour justement monter l'hôtel. C'était pas un petit hôtel dans le mur, et c'était une grande table avec plein de fruits. Je peux dire, à l'époque, je disais, mais elle a pris tous les marchés en fait, parce que il y avait une grande table, et où il y avait des fleurs oranges qui s'appellent cempasúchil.
Ah bah, qui signe complètement, on voit.
Exactement, c'est la fleur orange. Et il y a une autre fleur rouge qui s'appelle terciopelo, que c'est velours. Et effectivement, c'est comme un velours. Et c'est deux fleurs. Et il y en avait partout dans la salle. Mais des fruits, surtout bananes, ananas, pommes, poires, il y avait aussi des fruits des saisons, bien sûr, mandarines, citrons, et patates douces, camotes.
C'était ça, fruits, c'était vraiment les fruits.
Des fruits. Et des fruits confits aussi. Les mêmes fruits, mais les fruits confits. Il y a toute une technique pour préparer le fruit confit. Et aussi des courges en confit. Et les plats des morts. Les plats des morts, c'est les plats que les gens de la famille qui étaient partis, ils s'aimaient le plus. Ça dépendait de chaque personne, mais sinon, et il y avait aussi le plat traditionnel que c'était les mollets. Que les mollets, c'est une sauce de piment. Et de tamales. Et les tamales, c'est un papillot de maïs.
Alors donc, là, on a tout, là. Voilà. Mollet, tamales, mais ça va falloir nous décrire un petit peu.
Hein. Il y avait du riz, des tortillas, plus tous les plats des gens qui étaient partis, ouais. Ils aimaient.
Ouais, parce que c'est ça la spécificité aussi, c'est que on rend hommage et on crée cette passerelle en cuisinant les plats que les défunts aimaient. On met parfois des cigarettes aussi, même l'alcool, si jamais ils buvaient de l'alcool, tout ce qu'ils aimaient, s'ils aimaient jouer aux cartes et tout ça, ce genre de choses.
Exactement. Donc à la fin, on s'est trouvé avec une table vraiment comme à Noël, sauf que les couleurs étaient différentes. Et il y avait le portrait ou les photos de gens qui étaient partis un peu partout. Et c'était magique parce que quand tu rentres dans la salle et tu te retrouves avec toutes ces odeurs des fruits, fleurs, et donc c'est festif. Tu penses pas à la mort vraiment. Et en plus, ça te donne un sentiment de bien-être parce que quand on parle de mort, on peut être triste, on peut avoir plein de sentiments. Et la logique nous dit que c'est des sentiments tristes, mais non, quand tu rentres dans la salle et que tu vois toute cette couleur, les photos des gens, c'est comme si c'était vraiment là. C'est en fait une tradition qui aide.
Qui apaise peut-être.
Voilà. Qui apaise la douleur. Et c'est bien. C'est pour ça qu'on aime beaucoup cette fête. Et à la fin, on n'avait pas les droits de toucher l'hôtel. En fait, l'hôtel changeait et pendant les 31, le premier et les deux, ça changeait tous les jours. En fait, tous les fruits restaient, mais les plats changeaient parce que le 31, et c'était les gens qui étaient partis par des problèmes vraiment. Et pas naturel, accident ou des choses comme ça. Donc, on fêtait ce jour-là les gens et qui partaient par des raisons pas naturelles. Et donc, s'il y avait quelqu'un dans la famille, on préparait les plats de cette personne.
Oui, donc chaque jour, en fait, les plats pouvaient changer et tout ça.
Exactement.
Sébastien, toi qui chaque année, du coup, fêtes avec ces offrandes, qu'est-ce qui, pour toi, quand tu sens quelque chose, tu te dis, ça y est, maman est en train de préparer la fête des morts. Qu'est-ce qu'elle cuisine dont tu sais que c'est pour ça?
Le pain des morts.
Le pain des morts. Ça, il y en a une sacrée quantité qui est faite chaque année. Et il est comment ce pain? Est-ce que tu pourrais nous expliquer, si moi je n'en avais jamais vu, et comment tu décrirais ce pain?
C'est une sorte de pain, mais au-dessus, souvent, je vois une sorte de croix, mais au milieu, c'est une sorte de mini-tête.
Alors, c'est une croix, Mercedes.
On pourrait dire que c'est une croix. Il y a plusieurs significations, en fait. Le pain de mort, c'est une brioche. Une brioche, comme les brioches qu'on trouve en France. Donc, en fait, on sait que ça vient d'un peu de la pâtisserie et boulangerie française. Toutes ces brioches et toutes ces héritages de l'Europe qui est arrivé au Mexique avec des bons produits. Et on fabriquait des pains des morts, que c'est une brioche, c'est sucré à l'orange. Et on peut pas dire que ça soit une croix. Certaines personnes disent oui parce que c'est les quatre points et le nord, sud, est, ouest. Mais c'est aussi le centre, c'est le centre de la terre. Mais on peut aussi dire que c'est les bras, le pied et la tête du mort. Donc il y a plusieurs légendes, plusieurs mythes. Moi, personnellement, je préfère que c'est le corps de
Oui, d'ailleurs, la croix, elle a une forme d'eau. Les barres qui traversent ce rond et ce cercle, on a vraiment un os. plusieurs eaux.
Plusieurs eaux. Donc moi, je préfère celle-là. C'est un mythe que j'aime beaucoup. Et parce que ça nous permet de continuer avec cette fête, avec cette jeu, je veux dire. Parce que si on a des crânes, pourquoi pas le petit mort aussi à côté.
On a des jeux tout autour de la mort.
Exactement.
C'est ça qui est bien.
Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi.
Aguilar sur RFI, bienvenue, vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. L'album s'appelle Primero Soy Mexicana, c'est votre musique en cuisine. Mercedes Ahumada, chef conférencière mexicaine avec son fils Sébastien aujourd'hui pour nous parler de cette fête des morts, La Llorona. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette chanson? Pourquoi ce choix et qui était-elle donc?
La Llorona, c'est la dame qui pleure. C'est une histoire, bah oui, triste, bien sûr. C'est une dame qui a perdu ses enfants. Et donc, la nuit, elle sort pour plaire à ses enfants. Mais après, c'est devenu une histoire connue. Je pense que c'est en plus une histoire un peu partout dans le monde. Mais on lui a fait la chanson qui s'appelle Llorona. Et elle parle justement de cette femme, mais elle fait référence aussi aux femmes qui souffrent. Mais c'est devenu traditionnel. Donc, la joie un peu partout, même dans les films. Il y a eu un film de... dessin animé.
Un dessin animé, voilà, Coco.
Et oui, c'était la chanson de Coco.
Ouais.
Et là, maintenant, il y a beaucoup de versions. Cette version, c'est une fille, à l'époque, quand elle commençait à la chanter, elle avait 11 ans. Et c'est une fille qui a beaucoup, beaucoup de talent et qui joue, qui chante la musique mexicaine traditionnelle avec son père. Et puis moi, j'adore. C'est la voix de la fille. Là, il me semble qu'elle avait 11 ans, 11 ou 16 ans, à peu près, les temps qu'elle a chanté cette chanson. Super, donc c'est la chanson qu'on joue un peu partout.
Et donc, pour la fête des morts, elle est très présente, cette chanson?
Toujours. Parce que ça représente, en fait, ça, la représentation, c'est de la dame, justement,
habillée. Elle erre un petit peu, en fait, c'est ça, elle est une seule, on dirait, comme un fantôme, dans
c'est
une robe
un
blanche,
fantôme,
comme une mariée,
voilà.
Qui...
Et non, justement, c'est ça la différence avec la dame en blanche qu'il y a partout dans le monde. Elle est habillée avec un habit traditionnel. Et ça dépendra de la région et les cimetières, donc elle sera habillée de différentes façons. C'est la région du sud, bon, elle portera le avis de la région du sud. Si c'est centre, bon, ça dépendra, parce que là, un peu partout, en fait, je pense qu'on fait référence à la femme mexicaine qui peut avoir souffert peut-être dans la vie, non? Donc, pas forcément la perte de quelqu'un, mais la perte de quelque chose.
Alors, je vous propose d'aller à Mexico, ensemble, un petit détour, le jour des morts, justement. Jour de joie, hein, on peut dire. C'est ce que nous explique Sergio Leite, il est directeur d'un collège à Mexico.
Pour nous, les Mexicains, la mort n'est pas synonyme de chagrin. Dans cette fête, les gens sont gais, ils aiment plaisanter, ils font preuve de beaucoup d'humour. Ils parviennent à puiser le rire, des blagues et des jeux de mots dans la mort. Bien sûr, on joue avec les fameuses têtes de mort en sucre, en chocolat ou en sésame, sur le front desquelles on colle le nom des êtres chers, des amis, et on se les échange sans que ce soit de mauvais goût.
Voilà, on se joue de la mort, on rigole de la mort et on est avec elle. Il y a vraiment ce passage-là. Est-ce que toi, au tout début, Sébastien, de cette émission, tu nous disais que vous accueillez les morts pendant ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça signifie quoi? Tu as vraiment l'impression qu'il y a les deux mondes qui se réunissent pendant ces jours-là?
Oui et non. Parce que je les vois pas. Et dans ma tête, je les vois en fait. Et pour moi, c'est oui et non pour ça.
D'accord. Et quand tu as vu le film Coco, parce que Coco, ça raconte vraiment, justement, c'est un film Pixar, un dessin animé, qui raconte réellement ce passage. Donc un enfant qui joue de la musique et qui retrouve dans l'autre monde, qui lui va dans l'autre monde. Qu'est-ce que ça t'a évoqué quand tu l'as vu, ce film?
Ça m'a surtout fait penser à mon grand-père. Et je crois que c'est tout.
D'accord, ben voilà. Et tu trouves que c'est réconfortant?
Que ça pense à mon grand-père mort, oui, un peu.
En tout cas, on a parlé du pain des morts là jusqu'à présent. Le pain des morts, c'est bon? C'est quelque chose que tu aimes bien, cette brioche?
Ouais. Oui.
Mais il y a des tamales aussi, tamales? C'est ça? C'est bon, ça?
Oui, c'est très bon.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
Je crois que c'est une sorte de pâte, mais fait avec du maïs, et que c'est mis dans une feuille de maïs.
D'accord. Et ça, c'est une offrande classique? Mercedes Ahumada?
Oui, c'est une offrande classique, vraiment. Et le maïs, c'est le représentatif du Mexique. Et donc, forcément, le tamal qui vient vraiment, il y a des vestiges où les gens, à l'époque préhispanique, le mangeaient déjà. Et c'est un plat qui a été aussi transformé à l'arrivée des Espagnols parce que on a ajouté la matière, le santour, en fait. Et au Mexique, il n'y avait pas de porc. Et c'était la façon de le faire un aliment religieux. Et donc, ça a continué la fonction à l'époque préhispanique et comme offrande, mais qui a été mis au catholicisme.
Oui, c'est ça, voilà. Mis au goût des catholiques, avec voilà. Le saindoux.
Exactement, justement, bah, par l'histoire de l'Espagne, qui savait avec l'arabe, non, pendant beaucoup d'années. Et donc, c'était leur façon d'imposer la religion catholique. Et bon, voilà, et c'est donné le tamale, c'est très bon, et ça se mange tout le temps, un peu partout dans le pays.
Mais c'est une pâte de maïs?
C'est une pâte de maïs. C'est un gâteau de maïs, en fait. Cuit à la vapeur dans une feuille de maïs. Et normalement, on peut la cuire aussi dans des feuilles de bananier, dans des feuilles d'avocat, plusieurs feuilles.
Même, c'est une papillote, en réalité?
C'est une papillote. Même maintenant, on peut la cuire dans des feuilles de... Bon, il y a des gens qui la cuisent dans des feuilles d'épinards. Et c'est très bon.
Dans des feuilles d'épinards?
Dans des feuilles d'épinards, oui.
D'accord.
Et comme c'est cuit à la vapeur, et ça prend les arômes de la feuille. Et c'est très très bon.
Et c'est salé, sucré, c'est...
On peut trouver des salés, des sucrés, des desserts, des plats et farcis des viandes, de porc, poulet, d'inde, mouton, de tout. Mais les éléments qui sont toujours présents sont le gras, le santoux et le maïs. Maintenant, on peut changer le santoux par du beurre quand c'est du sucré. Quand c'est le tamale sucré, et on change du beurre et à la fin, t'as que... Bon, nous avons un gâteau, un vrai gâteau, une sorte de brownie, de brioche, je sais pas.
D'accord, c'est on peut faire bon. Au chocolat également, là.
On peut faire au chocolat.
Bon, donnez-nous une recette, là, on vous écoute, là, parce qu'on la mettra sur la page du
Monde,
recette, évidemment.
Bien
mais
sûr.
Tamale, le tamale classique, mais le tamale qui donne envie, là.
Je peux donner vite fait une recette.
On vous écoute.
Et donc, ça sert pour... Bon, on avait besoin de 1 kg de farine de maïs. Il faut que la farine soit nixtamalisée. Là, je peux vous donner aussi la recette de la nixtamalisation, mais pour le moment, si on l'achète...
On mettra sur la page internet, parce voilà. Qu'on est d'accord. Que, bah, je ne sais pas long. Vous qui nous écoutez, mais moi, généralement, quand on donne des recettes, je ne retiens pas tout.
Voilà. Et donc, on aura besoin d'un kilo de farine de maïs nixtamalisée. On pourra trouver ça dans les commerces et des boutiques spécialisées des produits d'Amérique latine. Et pour ça, à peu près 400 grammes de beurre ou de sandou ou matière grasse. Bon, coco aussi. Et on va mixer tout ça avec un peu de liquide. Si c'est salé, on peut ajouter un fond de volaille, du porc, de bœuf, peu importe. Ça fera 1,5 litre. 1,5 litre, on va mélanger tout ça jusqu'à avoir une pâte qui ressemble un peu à une crème glacée. Et ça, on va l'étaler. Ah, si, et le liquide, ça peut être du jus d'ananas, orange, raisin, peu importe. C'est le liquide qu'on va choisir. Ça peut être même de l'eau, mais bon, si on peut parfumer l'eau, c'est mieux, ça donne un joli goût à notre papillote. Et après ça, on va l'étaler dans une feuille de maïs hydratée. Et dedans, on mettra ce qu'on veut, la viande, raisin, ananas, des fruits, peu importe. On va le fermer et le cuire pendant 1h30 à la vapeur. C'est tout. Donc, c'est très simple. C'est très simple, mais laborieux parce que on va pas faire un tamal. Et puisque d'un kilo de farine, on aura à peu près une soixantaine.
Une soixantaine de tamales avec un kilo de farine.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Donc, c'est une bonne opération.
Exactement. Donc, c'est long à faire. Vraiment long à faire parce que quand on fait des tamales, c'est pour une fête.
Le pain des morts également, est-ce que c'est long à faire, le pain des morts?
Le pain des morts, c'est très, très long à faire de la façon traditionnelle si on n'ajoute pas des additifs pour la fermentation, si on le fait de façon traditionnelle.
Sans levure?
Si, on fait la levure, mais il y a maintenant, les brioches, on peut ajouter des choses pour et accélérer la fermentation. Et donc, si on le fait pas, si on le fait de la façon traditionnelle, ça va nous prendre à peu près 6 heures de travail parce que, une bonne brioche avec la bonne matière première, il faut la lever une première fois, après former le pain de mort et attendre encore 2-3 heures pour que ça rentre au four. Et donc, pareil, on va pas faire une brioche, on va en faire plusieurs.
On en fait 1000. Hein, combien il y en a qui sont partis? Parce qu'évidemment, j'ai dit que vous étiez chef cuisinière, mais vous êtes aussi traiteur. Donc, ce pain des morts, c'est un peu...
La signature
record. D'ailleurs, je crois qu'on vous a fait tout un poème à propos de ce pain des morts que vous faites chaque année. Combien il y en a l'année dernière qui sont partis
l'année
des pains
dernière,
des morts?
L'année dernière, je ne me rappelle plus, mais mon record des pains des morts, c'est il y a 2 ou 3 ans, j'en ai fait un peu plus de 2000 à la main, toute seule.
Toute seule,
pendant à peu près une semaine.
Même Sébastien en a la bouche toute ouverte.
J'ai travaillé à peu près 20 heures par jour. Et tellement j'avais des gens qui m'en demandaient parce que c'est vraiment une tradition pour les Mexicains. Très, très importante, mais pas seulement pour les Mexicains. Les gens qui viennent au Mexique et travailler, par exemple, les Français qui viennent travailler et les Américains, maintenant, c'est vraiment des traditions gastronomiques. Pas seulement la tradition qui fait la fête des morts, mais la tradition de la culture gastronomique. Et donc, les gens adorent. Les gens adorent. Ils font pas leur référence au rituel. C'est-à-dire, c'est une fête et qui a beaucoup, beaucoup de points. C'est-à-dire, ça peut être religieux, ça peut être juste seulement festive, ça peut attirer des gens, la culture.
C'est une fête, quoi. Ce qu'on retient, c'est que c'est une fête.
Exactement, exactement. La fête comme on veut. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la façon traditionnelle de la fêter. Et donc, ça, c'est magique, c'est extraordinaire.
Ça fait tous les mondes. Alors, vous avez dit un pan de la gastronomie mexicaine, le pain des morts, le tamalé, mais alors là, on va s'attaquer quand même à un monstre de la gastronomie mexicaine. Vous savez de quoi je parle?
Le mole.
Ah ben, le mole. Mole égale sauce dans le dictionnaire.
Exactement.
C'est une sauce mexicaine, mais alors là, combien de mole existe-t-il?
Oh, il n'y a pas... Si je dis 5 000, je pense qu'il y en a encore beaucoup plus. Mais bon, et les recettes les plus connues, c'est celle de l'État, c'est la ville de Puebla, c'est la plus connue, et de Oaxaca, de l'État de Oaxaca. Donc je pense que c'est deux, les mollets noirs et les mollets rouges, comme on les appelle, c'est les plus importants, la mano au Mexique. Et quand on fait un mollet? Ah, pour les mollets, on peut prendre 15 jours pour la préparation, voire plus, comme je disais tout à l'heure. Ça dépendra aussi de la signification pour la cuisinière. C'est-à-dire, c'est elle qui choisit. Ça dépendra les éléments qu'elle va choisir. Mais bon, on a des piments. On peut avoir des piments encore le sandou parce que, et pour la même raison que j'expliquais tout à l'heure. Mais sinon, le mollet, les vrais mollets, que c'était les sauces. Bon, je veux dire pas les vrais mollets, mais les mollets ancestrales. C'est une sauce que de piment. Il n'y avait pas beaucoup d'épices.
Que de piment, d'accord.
Oui, voilà, parce que les épices sont arrivées après avec les Espagnols. C'est après que les épices sont ajoutées. Et donc, et on peut trouver entre les épices qu'on peut trouver, c'est le clou de girofle, le poivre, l'anis
la cannelle.
Étoile, la cannelle. Et oui, Kevin, qui venait de Sri Lanka. Et donc, toutes ces épices qui sont arrivées au Mexique, et les raisins secs, les fruits confits, l'ananas, et tout ça, c'est parti du mollet. Et c'est simple, la préparation. Ce qui est difficile, la préparation en cuisine, je veux dire. Mmh. Mais ce qui est difficile, c'est tous les ingrédients.
Réunir
tous les ingrédients et de préparer chaque ingrédient. Après, quand on a déjà tous les ingrédients, tout ce qu'on va faire, c'est faire revenir dans le sandou. Et après, c'est la molienda. Et la molienda, c'est de moudre tous ces éléments, mais à la pierre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est compliqué. Parce que si on a, je sais pas, une trentaine d'ingrédients et les moudre à la pierre, bah, c'est long. Ça peut passer
une
semaine.
Il faut se rendre compte que quand on dit tous les ingrédients, c'est pas 10 ingrédients.
Non.
C'est plus proche de 30, voire 40 que 10.
Exactement. Voilà, et on peut trouver la tortilla de maïs, mais pour préparer la tortilla de maïs, il faut faire une nixtamalisation, que c'est toute une technique ancestrale. Mmh. Il faut moudre le maïs à la
Donc
pierre aussi.
Donc on comprend
aussi.
Tout de suite pourquoi Mercedes, pourquoi est-ce que les familles se réunissent pour préparer cette
oui.
fête, et donc les mollets et tous les tamales, les pains des morts et tout ça, parce que ça demande énormément de préparation.
Exactement.
C'est pas compliqué, mais c'est très sophistiqué.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a même la brioche. Il y a la brioche dedans. Là, ici en France, j'utilise mon croissant. Mais sinon, et dans les régions, ils font un pain qui s'appelle pain de yema et que c'est aussi une brioche à faire avec des œufs. Mais bon, il faut préparer la brioche. Mmh. Et la brioche va prendre à peu près 6 heures. Et avec la brioche, les gens feront des autres choses. Ça sera partie de l'hôtel aussi. Mais il faut la préparer pour ensuite préparer les mollets. Et la tortilla aussi, il faut préparer les grains, il faut faire la tortilla, il faut moudre le maïs pour après faire la tortilla, après la griller pour l'ajouter au mollet. Et donc, et ça serait plus simple d'ajouter un peu de la fécule de maïs, non?
Si.
Mais non.
Non.
Mais non.
Parce que Sébastien, sinon, on le mollet, pas le goût. C'est lequel le mollet que tu préfères?
Le mollet rouge.
Le mollet rouge. Donc, il vient de Oaxaca. J'ai bien suivi.
Non, de Puebla.
De Puebla. J'ai pas suivi du tout.
C'est un mot.
Mais comment il s'appelle, ce mollet poblano?
Mollet poblano. Il y a du chocolat dedans aussi.
Le voilà, pourquoi. Le mollet. Et vous, votre préféré?
Ah, moi, j'aime tout. Les deux.
Tous les mollets.
Le mollet noir, c'est pas sucré. Le mollet poblano, c'est légèrement sucré.
Ouais. Donc, et on peut en faire. Est-ce qu'on en met dans les tamales?
Dans les tamales, on peut mettre de mollets. Donc, si on ajoute toute la préparation, si on ajoute à la préparation du mollet, la préparation de tamales, dont il faut préparer la pâte des tamales, c'est long. C'est vraiment très long.
Non,
à
mais il ne faut pas décourager ceux qui nous écoutent. C'est long, mais c'est bon. C'est très,
Exactement.
Très bon.
Et en plus, c'est juste une fois par année, parce que c'est la fête.
Voilà. Puis on a toute l'année, on a bien compris, toute l'année pour préparer les mollets.
Voilà. C'est ça. Mais à la fin, on a une fête en famille, et le mort et le vivant. ce qui est extraordinaire parce qu'on va goûter un mollet avec les gens qui sont déjà partis, mais qu'au même temps on garde dans nos cœurs.
Dans nos cœurs, et on parle, tu te souviens, quand il mangeait son mollet, il en mettait partout.
La papila gustativa que tenemos los cubanos no ofrecen alternativa, puerco, arroz, carne o banano. Por eso el mole a mi juicio constituye un disparate, pues nadie en su sano juicio mezcla chile y chocolate. La monja que concibieron este platillo inaudito, a mí que algo se
me en Cuba. Comique et chanteur, qui a fait une chanson exceptionnelle, je trouve. On parle du mollé. En gros, il dit, les Cubains, on connaît que quatre papilles gustatives pour les haricots, les riz, peu de choses. Mais quand je suis arrivée au Mexique, j'ai trouvé cette chose bizarre qui s'appelle mollé. Et le mollé a mille choses. Et qu'est-ce qu'un Cuba peut faire avec ça? C'est impressionnant. Et alors, il fait toute une histoire de comment le mollé est né. Birulo s'appelle Cuba, a fait cette chanson et c'est vraiment très joli.
Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco, con los santos se discutía. ¿Quién se echaba su último trago? Con los santos se discutía. ¿Quién se echaba su último trago? Se fue a su chilicopal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto, sí, ese muerto no. El muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán. ¡Epa! ¡Ahí viene la muerte! La pelona prende su tele para ver la telenovela. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate porque pide dulce y salado.
Somme des Defuntos de Lila Downs, bienvenue, vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde, vous êtes sur RFI. Nous sommes avec la chef mexicaine Mercedes Ahumada, nous célébrons la fête des morts avec son fils également Sébastien. Días de Muertos au Mexique et dans le monde, ce moment si particulier de l'année où la vie et la mort se confondent et l'on se souvient dans la joie de ceux qui nous ouvrent la voie de cet autre monde sans crainte, en dansant avec gourmandise, car nos morts reviennent pour se régaler et partager avec nous. D'ailleurs, ce n'est pas qu'au Mexique que cette tradition est célébrée, évidemment au Mexique, c'est peut-être une des traditions les plus connues et les plus entendues, mais il y a également en Afrique, dans certains pays d'Afrique, où cette tradition est également célébrée, où les morts également, cette passerelle s'établit autour du 1er novembre. Je vous propose de partir au Gabon où Yves-Laurent Goma a promené son micro.
Chaque 1er novembre, on va au cimetière pour honorer nos morts.
Qu'est-ce que vous allez apporter à votre mort?
À boire, à manger.
Vous allez amener à manger?
Oui.
Pourquoi vous allez amener à manger?
Nous sommes des Africains, on ne va pas oublier la tradition.
Et s'il se réveille pour venir manger?
Les morts ne sont jamais morts. Les morts existent parmi nous. Les morts nous regardent.
Donc ils vont manger.
Ils vont manger ensemble que nous.
Après avoir nettoyé les tombes, et puis il faut donner un mort. Et à bord aussi. Ça fait partie de nos coutumes aussi. Hein.
Et s'il se réveille pour venir manger?
Oui, mais ils viennent souvent. Ils viennent pour manger, ils viennent pour boire. Tu connais ce que ton papa aimait avant? S'il aimait le chocolat au Nyambwe, alors vous préparez le chocolat.
Vous saviez tout ça, Mercedes?
Ben oui, s'ils aimaient les chocolats, on prépare du chocolat.
Eh ben voilà, tout simplement. Mais c'est une tradition, justement, c'est très important. En fait, c'est assez viscéral, on a l'impression. C'est comme, et tellement logique quand on l'entend.
Mais c'est logique. C'est logique. Si les gens aimaient les chocolats, ouais, oui. Pour nous, c'est comme ça, c'est naturel. C'est, on grandit et au Mexique, on grandit comme ça et donc c'est naturel. Toi, quand tu arrives à la maison dont la cuisinière prépare et tu sens ce qu'elle est en train de préparer, tu dis, ah, ça c'est pour mon oncle, je sais pas, ça c'est pour, comme s'il était là. Si les gens le connaissent pas, ils peuvent pas savoir qu'il est parti. Mmh. Parce que pour nous, il est pas parti. Ou si, mais il est là. Il rentrera avec nous. Et la nuit des morts. Et voilà. Donc, s'il aimait fumer, bon, on va acheter les cigarettes qu'il aimait. Si, même si personne ne fume plus, là, on va acheter celles qu'il aimait. Pas les autres, non, même les gourmandises les plus étranges, parce que c'est les goûts de chacun. Si, même industriel, si tu veux, là, maintenant, les gens, là, dans le Sofrendas, si quelqu'un aimait une tartine Nutella, bah tu vas trouver de la tartine de Nutella parce qu'il aimait.
Et quand on va au cimetière également, on s'occupe des tombes, on reste près des tombes, on va dîner justement. Est-ce que ça se passe comme ça aussi? Enfin, oui. C'est transporté.
Pendant toute une semaine, avant le 31, les tombes doivent être déjà préparées. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, le 31, le premier, c'est pour le tisange. Le tisange, c'est les enfants qui sont partis. Et le 2, c'est pour tout le monde, en fait. Et donc, le mieux, c'est que tous les tombes soient préparées avant les 31. Et quand tu arrives de la cimetière, tu peux pas reconnaître la cimetière parce que c'est comme un tapis de fleurs. C'est vraiment comme un tapis de fleurs et on visite le tombe de nos proches. C'est-à-dire, pas seulement de celles qu'on connaissait, mais les amis, on va parler un peu avec eux, mais aussi avec leurs familles, parce que leurs familles sont là et c'est un moment de partage avec des gens que t'as pas vu ou qu'on n'a pas vu pendant toute une année. Et c'est ce qui est bien et que c'est joli, ça fait bien au cœur, c'est que on va parler de ces gens-là qui sont venus. Comme si c'était là. Vraiment, on va raconter leurs histoires, tu te rappelles, il fait ça, et on va rigoler. Et si on parlait de ça pendant une autre époque de l'année, on pourrait pleurer, parce que c'est la nostalgie. Mais ces jours-là, non, et c'est tout un phénomène, et qui nous rend vraiment heureux.
C'est la joie de se retrouver vraiment, quoi.
Effectivement.
On est tous ensemble, et on est bien tous ensemble. On danse parfois,
on danse, on boit. Quand on va au cimetière, on peut avoir la musique. Il y a des mariachis, il y a de la banda, il y a même des radios, et là maintenant avec la technologie, même les portables et pour danser. Et pareil, on met de la musique que les gens aimaient. Il y a des cimetières où il y a même des marchés. Il y a vraiment un marché où il y a le monsieur qui vend les glaces et de l'eau, des sucreries à manger pour les gens qui sont là et même pour les hôtels.
La nourriture est très importante. Quel rôle elle joue, la nourriture, dans cette fête des morts?
Je pense que c'est les partages, non? Les partages, quand on dit à table, et je pense que la table n'est pas nécessaire. Donc, en ces moments-là, on pique-nique. Mais on est à table. On est à table avec eux. On peut prendre le tombe comme la table. Mais c'est en sans figuré, si tu veux. C'est là. Quand on mange, pas seulement au Mexique, mais partout dans le monde, c'est le moment des partages. Donc, je pense que vraiment, c'est justement le plat parce que on prépare la fête. Et on peut trouver également le mollet, qu'on a déjà un petit peu expliqué, le pain de mort, mais il y a aussi des boissons traditionnelles. On peut trouver la bière, la tequila, le mezcal, le pulque. Le pulque, c'est un fermenté de l'agave qui a été vu comme le boisson de pauvre pendant longtemps, et là maintenant, il est en train de prendre vraiment sa place dans la gastronomie mexicaine, et il a été un peu caché, et le pulque, il a été un peu caché par la bière, mais bon, il prend sa place, hein, et les gens...
Je croyais que c'était la boisson des dieux, moi, le pulque.
Les pauvres, bon, c'était la boisson des dieux à l'époque préhispanique, mais justement, quand l'industrie de la bière est arrivée au Mexique, ils l'ont vendue comme la boisson de pauvres, parce que c'était un phénomène de marketing, en fait. Mais là, maintenant, le pulque, il est en train de prendre sa place.
Le pulque revient.
Le pulque revient, justement.
Bon, et qu'est-ce qu'on va manger comme confiserie? Est-ce qu'il y a des bonbons ou pas de bonbons?
Ça, c'est une question où c'est vraiment étrange, parce qu'on n'a pas de bonbons. On n'a pas des bonbons, mais on a des sucreries, c'est-à-dire tous les fruits de saison, et c'est les fruits confits qu'on va manger pendant la fête des morts. La Manon, c'est plus récent, le tête en chocolat ou le tête de mort en amaranto, l'amarante, que ça s'appelle l'alegria, et que c'est l'amarante à un peu de miel. Et c'est les bonbons, en fait. C'est pas forcément de nougat ou des choses un peu plus sucrées. Non, on reste dans les fruits.
Les fruits. Il faut dire que, vu la complexité et la quantité des fruits délicieux, quel est ton fruit préféré, toi, Sébastien?
J'en ai plusieurs. J'ai la poire, aussi la pomme et la pêche, que j'aime la pêche.
Et les fruits confits, du coup, tu aimes bien?
Il y en a, oui. Mais il y en a non.
Oui, mais non.
Pour le fruit confit, il y a toute une technique aussi. Il y a des gens qui l'appellent nixtamalisation, mais non. En fait, c'est de mettre le fruit dans de l'eau à la chaud pendant 24 heures à peu près, ce qui va rendre la peau dure, mais ça reste le milieu restera
tendre. Tendre et délicieux.
Exactement. Et après, la technique du confit, qui est bien française. Bon, on l'a pris des Français, en tout cas. Et ça rendra le fruit sucré.
Ouais, comme à l'identique, mais sucré. Bah, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous les deux.
Merci.
Puisque nous sommes le 31 octobre aujourd'hui. Et bonnes fêtes à tous qui nous écoutez. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous cette culture. Merci Sébastien aussi de t'être prêté à ce jeu-là qui n'est pas forcément évident. Première radio pour ce jeune homme qu'on reverra peut-être. À bientôt aussi.
À bientôt.
Mercedes. Merci beaucoup de nous avoir guidés. Évidemment, pour vous retrouver, c'est très facile. Sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, cuisine-mexicaine.fr. On est
oui,
bien, ça, on trouve. Pour vous écrire et vous découvrir, les recettes du pain des morts et des tamales seront sur la page du Goût du Monde. Et vous, chez vous, là où vous nous écoutez, comment célébrez-vous la vie de ceux qui sont partis? Quel plat leur mijetez-vous? Racontez-nous, surprenez-nous sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Merci à Olivier Roux pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. Merci à vous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, soyez gourmands, prenez soin de vous.
Tumba, tumba, tumba.